ce jour dédié pour que Léa, Saouda, Zohara, ou Zohara, Bat Ani et Chaya, Bat Sara trouvent leur mazal cette année, Bézat Hachem. On parle de l'année civile, Bézat Hachem. Avant 2 mois qu'elles soient déjà fiancées, Amen va Amen. Avec un bon parti. Alors, la question de Yaron.
Comment entretenir la Bézat Hachem constance?
Comment entretenir la Bézat Hachem avec enthousiasme, avoir la pêche, ne pas rentrer dans la routine? C'est un travail. C'est écrit dans le Talmud, je crois, traité Brachot, au Megillah, je ne sais plus, c'est marqué, que la prière et l'étude de Torah, tsechim chizuk, ont besoin d'être renforcés. L'étude de Torah et la prière. Rachid dit là-bas, toujours de toutes ses forces. On doit se renforcer toujours de toutes ses forces dans l'étude de Torah et la prière. Ça veut dire, l'étude de Torah et la prière, ce sont des choses, ce sont des diamants. Des grands, grands, grands diamants que Dieu nous a donnés. Mais, comme tout grand diamant, d'accord, tu fais, je ne sais pas, moi, je ne connais pas, on va dire, 36 carats, d'accord, un truc très, très précieux comme ça, ben, il se trouve dans un coffre, avec des barbelés autour, des, je ne sais pas moi, des mitrailleuses électroniques, enfin, très dur d'y accéder. Ces diamants, c'est des diamants d'Hachem. Chaque chose qui est un diamant d'Hachem, il est entouré, on appelle ça une klipa. Klipa, c'est une écorce, c'est une force du mal, qui empêche d'accéder à cela. Et plus le diamant il est grand, plus la force du mal elle est grande. C'est exactement proportionnel. Étant donné que l'étude de Torah et les prières sont les grandes choses, les grands cadeaux qu'Hachem nous a donnés, donc ils sont difficiles d'accès. Mais si on casse l'écorce, alors on reçoit un flux de bonheur extraordinaire. En Torah, c'est simplement se concentrer, faire l'effort, répéter encore plus, t'en peux plus, avec une petite pause, bois un café, tu reviens, encore, ça jaillit. Et quand tu goûtes à ça, c'est un bonheur extraordinaire. Et ça te donne la pêche pour continuer. Je vais raconter l'histoire du stapler que m'a raconté le Rav Chazan. Souvent raconté, je la répète. Le stapler, c'était le Rav Yaakov Israel Kanievski, Zatzal, qui était le père de Rachaim Kanievski. C'était un géant en Torah. Géant. Un tzaddik. Il était le beau-frère de Chazon Ish, le grand de la génération. Un homme, il voyait tout. Un mot de sa part, ça se réalisait. C'était la guerre d'usure. C'était les années 70-71. Il priait à Bnei Brak, Kohel Chazonish. Il n'était pas plus Bnei Brak que Kohel Chazonish. Le Bnei Brak de Bnei Brak, d'accord. Et il prie, et il finit sa prière, il dit, c'est qui le Rav Israël Abou Hatzera? Dire le mot Abou Hatzera pour le stapler, c'est comme je te dis, tu parles congolais, d'accord. C'est Bnei Brak, Ashkenaz, comme ça. Il dit, il y a un rabbin, non, c'est un antivote, ça. Quand je prie, je vois sa prière monter comme ça, comme une flèche, qu'elle fait beaucoup de bruit dans le ciel. Le stapler, il est dans le ciel. Et il voit la prière du Baba Salé qui est aussi dans le ciel. Vous comprenez le niveau un peu, comment ça se passe. Le Rav Chazan vient de Bnei Brak. Son père était très proche du stapler. Et un jour, son père va voir le stapler, sa père lui dit, tu ne me prends pas pour un menteur. Moi, je prends pour un menteur, j'ai de la vie. Et en fait, tu ne prends pas pour un menteur. Chassé Shalom, pourquoi je prends pour un menteur? Écoute-moi bien. Tous les matins, quand je m'assieds pour étudier, entre 20 minutes et 40 minutes, j'ai une souffrance terrible. J'ai envie d'une seule chose, décamper. Et je tiens bon, et tout à coup, la douceur de la Torah, elle vient. Le stapler, quand il étudie, il a écrit des livres, j'ai étudié dans toutes les yeshivot aujourd'hui, Kelot Yaakov, c'est des monstres, des livres énormes, des géants de Torah, ces livres-là. Il étudiait, c'était des diamants. Mais il avait, comme tout le monde aussi, la clipa, l'écorce auparavant, qui devait casser, c'est dur. Donc au niveau de l'étude de Torah, c'est marqué, si on étudie la Torah de façon nonchalante, par la gauche, ça devient samamav, ça devient la drogue, l'élixir de mort, un poison. C'est insupportable. Et j'ai vu comme ça, dans mon expérience pendant 30 ans à l'Yeshiva, des élèves qui étudient, pas de rien, faire un tour, ils parlent la main, tata, au bout d'un moment, ils ne supportent plus d'ouvrir la main, insupportable. Quoi? C'est le livre de la vie, c'est ça la source de vie la plus grande. trouve ça comme du poison dégueulasse et quitte la yeshiva. On finit l'année comme ça en ramant difficilement. Et d'autres qui sont amoureux. Mais pour tout le monde, il est impossible de goûter au bon goût de la Torah sans effort. Effort, c'est scotcher le postérieur, sauf autre espèce, sur le siège, et étudier encore, je ne comprends pas, et tu réessayes de nouveau, et tu ne comprends pas, tu prends le marcha, tu n'arrives pas, et tac, 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 à la fin, tu comprends, et c'est extraordinaire. Ça, c'est pour la Torah. Prière, exactement la même chose. La prière, quand si on arrive à prier en supplication Hachem, à supplier, sentir qu'on est devant Hachem, et qu'on supplie Hachem, et qu'il nous écoute, c'est un bonheur. C'est un bonheur extraordinaire. Il n'y a pas plus grand bonheur sur Terre. Que l'étude de Torah, peut-être. Mais pour arriver, il faut y arriver. Dès que tu commences à prier, tu as des tas de pensées qui viennent. Une fois, le Rav de Brisk, le grand, il est venu en Israël, après la Shoah, il a quitté l'Europe, et est arrivé en Israël. Il était clandestin sur le bateau, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Et ils avaient très très peur que le capitaine vienne, et je crois qu'il est arrivé. Il a dit, je vais venir m'occuper de vous. Il avait très très peur. Il était juif, le capitaine. Alors, n'ayez crainte, il va complètement nous oublier. Pourquoi il est non religieux? Il ne prie pas. Pourquoi? Quand quelqu'un prie, toutes les choses qu'il avait oubliées, il s'en rappelle. Le SRA vient quand tu es en train de prier et t'envoie des pensées, tout. Je vais aller à Yeshiva, c'est très dur pour me prier à Yeshiva. Pourquoi? Parce que je vois, lui, il faut que je juste comme ça, lui, il faut que je juste comme ça, il faut refaire. Tout ça, arrêter complètement et penser que tu pries Hachem et penser les mots que tu dis. C'est un effort. C'est marqué dans le Kriyat Shema. Vous le servirez de tout votre cœur. Le Ovdo en hébreu signifie travailler. Travailler le cœur. C'est quoi travailler le cœur? Sages d'Israël l'ont dit, c'est la prière. C'est un travail. C'est un travail. Quel travail? Une concentration. Pensez au moins ce que tu dis. Très dur. Le Yessara, il veut te voler. Chaque bénédiction, chaque mot, c'est une bataille. Chaque mot, c'est une bataille. Il vient avec ça, après avec ça, avec ça. Il faut se battre. Tu arrives à faire maintenant une bonne partie de la Mida déjà en pensant ce que tu dis, c'est énorme. Après, commencez à mettre au moins dans quelques parties du cœur. Supplier Hachem. Pensez que c'est que de lui tout vient. Que de lui, on n'a rien, qui on est, quoi, on est complètement dépendant de lui, il veut tellement nous donner, il faut ouvrir la bouche pour qu'on le demande, il est prêt à nous donner, supplie. Au bout d'un moment, tu t'habitues à ça, c'est impossible d'arriver à une routine, impossible. Ça t'arrive que ça te casse les pieds, entièrement d'accord, parce que c'est dur. L'amida, c'est un effort, la prière, c'est un effort. Ici à l'Eshiva, c'est une prière. Dans beaucoup de synagogues, ce n'est pas une prière, c'est le premier. Il est bien le chaliar qu'il a fini aujourd'hui, 2 minutes avant celui d'hier. D'accord? C'est très souvent comme ça. Ce n'est pas une récitation, c'est une prière. Alors, ici, Baruch HaShem, c'est yeshivatique, c'est plus lent. Profite au moins la Amida. On est vraiment devant Dieu, c'est la partie la plus importante de la prière, la faire lentement, chaque mot. Je garantis un retour sur investissement. Mais il faut investir. Et c'est dur, et c'est casqué, c'est une habitude à prendre, d'accord, de pas comme ça. D'abord, il faut comprendre ce qu'on dit. Il y en a qui lisent, ils ne savent même pas ce qu'il y a. Prendre une traduction, commencer à comprendre. D'après la Halakha, si tu n'as pas compris au moins, tu n'as pas pensé ce que tu disais dans la première bénédiction de l'Amida, comme Magan Abraham, tes parents du kit. On continue, on ne refait pas l'Amida. À un temps, on devait refaire l'Amida. Je vous en dis, la deuxième fois sera encore pire que la première. D'accord? Donc, ça ne sert à rien que tu prononces le nom de Dieu en vain de nouveau. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre ce qu'on dit. Et ça, ils ont fait un rabais, ils ont écrit la première bénédiction. On en a 19. Mais elles sont fantastiques. Chaque bénédiction, c'est un diamant. Alors, comment on arrive? Comme j'ai dit, il y a des barbelés, des mitrailleuses, des Kalachnikov électroniques qui t'empêchent d'y aller. Toutes les mauvaises pensées, toutes les choses, et des fois les mauvaises pensées. D'accord? Aujourd'hui, tu ne penses pas des bonnes femmes. Au milieu du chemin Israël Shamecha, tac, t'es la bonne femme qui t'arrive. Au milieu de l'Amida, pac! C'est un très bon signe. Prouve que le SRA n'est pas content, il veut t'embêter. Si t'as rien pour. Si tu pries tout de suite ton chemin Israël, tu fais ta Amida et tout va très bien dans la tête, c'est bizarre. Ça veut dire que tu n'embêtes personne. Tu es tellement nul qu'on n'a même pas besoin de venir t'embêter avec des bonnes femmes. D'accord? Mais si maintenant tu pries et ça, c'est la bataille, c'est très bien. Tu es en train de te battre. Mais c'est une bataille. On est sur un champ de guerre. Tu le baisses, c'est lui, tac, il a eu un point, tu vas le voir le deuxième. C'est une vraie bataille. D'accord? Alors, ils font ça au flipper, vous faites ça dans la Amida. Et nous, c'est une vraie bataille qui construit énormément. Elle fait c'est extraordinaire l'action spirituelle qui est faite par les prières du peuple d'Israël. Alors que Dieu nous aide à nous renforcer sans cesse. Il y a beaucoup de paresse là-dedans. Le vrai ennemi, l'ennemi numéro un, enfin, j'ai fait un cours qui a été appelé l'ennemi public numéro un, c'est la paresse. Pour l'étude du Torah, c'est la paresse. Parce que non seulement il faut venir s'asseoir au Lagmara, mais il faut se concentrer. Et nous, on n'a pas envie de se concentrer, c'est un effort. On veut le moindre effort. On a été éduqués en Occident. Le moindre effort, far niente, rien faire. D'accord? Tout Lagmara, tu lis un peu et hop, on va parler un peu. D'accord? Tellement c'est bon de parler. C'est dur! Idem prière, se concentrer, c'est dur, ça demande un très grand effort. La paresse nous empêche. Alors se battre contre l'ennemi du public qui veut notre perte, qui s'appelle la paresse, et comme ça on gagnera. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.